que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec des experts compétents pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Voilà, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, aujourd'hui nous parlons droit aujourd'hui, et tout à l'heure avec Maître Guilin, on va parler des droits des détenus. Vous savez, la situation des détenus dans les prisons de la RDC n'est pas toujours reluisante. Les conditions de détention ainsi que l'état des maisons carcérales laissent à désirer. Les soins de santé primaires sont à peine assurés, et d'ailleurs, la plupart des décès enregistrés dans ces prisons sont dus au manque de soins ainsi qu'à la faim. Quels sont les droits des détenus? Avant de donner la parole à notre invité, nous allons suivre cette capsule réalisée par le Centre Locolé.
Yo, Roger, c'est une correction avant qu'il
n'y ait le commandant Janvier.
Tala. Yo na groupe na yo, na singi na binoye, boti kakotanga kombo ya commandant Jangi. Olandi?
Boye commandant.
Okoye balilo. Ay, bima nanda konanga.
Ay! Ay!
Sergeant Sandro. Yaka.
Ay!
Bima nanda ko.
Ay!
Bima!
Ay!
Sandro. Nende ko tika yena kimbo na yo.
Ay! Ay!
Me, Sandro.
Ay!
Ozo bete ete? Nanobi beta ye.
Ay!
Voilà.
Jean-Michel,
au Kanganga, les sous-sous qui l'ont fondé. Té, n'a pas fondé, té. Aïe, le bon courant. Aïe.
Waka! Matou, comment tu?
Bozali na libunga, soki bozali ko sala loko la commandant gentil. Mobeko e pekisi yango. Motomo kote akoki ko kangama, na esika oyo bakonzi ya bosembo bazali na kontrol na yango te. Moto nyonso, azala na bonsomi. Tope na boloko, asengeli kozala torture te, to basala ye makambo oye ko bebisa nzoto na ye. Soki makambo ya boye esalamaki epai na yo, kobanga te kofunda. Mobeko ezali kobatela yo. Totombola makoki oyo pona Kongo ya sika.
Totombola makoki oyo pona Kongo ya sika. Maître Malher Guilin, il existe aussi des cachots privés, on vient de suivre. Commandant Janvier, qui se permet de coffrer les gens chez lui et de les faire tabasser. Et
effectivement, cette capsule caricature un peu la situation, mais malheureusement, il y a eu à un moment donné dans ce pays des situations comme celle-là. Mais le gouvernement, à l'époque, s'était engagé à la fermeture de tous les cachots qui n'étaient pas sous le contrôle du parquet. Parce que c'est qu'il faut savoir que tous les cachots qui sont situés au niveau des offices des OPJ doivent être sous la supervision des parquets, de sorte que les magistrats du parquet puissent faire la ronde de ces cachots et vérifier la régularité de la détention des personnes qui y sont internées. Et donc, de plus en plus, en tout cas à ma connaissance, ce genre de cachots qui échappent à la vigilance du parquet, on n'en connaît plus beaucoup sur l'étendue de notre territoire.
Et dans ces cachots-là, normalement, on doit détenir la personne pendant combien de temps?
En principe, dans un cachot donc reconnu, c'est le lieu où l'on garde à vue les personnes, c'est-à-dire pour des besoins d'enquête ou lorsqu'on a crainte que la personne ne puisse se soustraire à la justice. S'il existe des indices sérieux de culpabilité à son encontre, l'OPJ qui appréhende une personne peut décider de la garder pendant un délai d'au maximum 48 heures, dit la loi. Mmh. Et au-delà de ce délai-là, il faut l'acheminer auprès de l'officier du ministère public, c'est-à-dire le magistrat du parquet, qui va instruire son cas et décider que la suite à donner à l'affaire soit classée sans suite, soit engager les poursuites. Donc ce n'est pas l'OPJ qui décide de classer sans suite, c'est le magistrat du parquet qui apprécie. Et donc 48 heures pour l'OPJ maximum. Sinon, selon la loi, dès que l'OPJ reçoit une personne en état d'arrestation, il doit l'entendre immédiatement et l'acheminer immédiatement auprès du magistrat du parquet. Donc c'est exceptionnellement qu'on peut détenir quelqu'un au niveau du cachot, mais alors pour un maximum de 48 heures.
48 heures au poste de police, par exemple, du quartier.
Exact.
Et dès qu'on vous amène, il faut un PV.
Oui, toute personne qui est en état d'arrestation doit être entendue sur procès verbal. Parce que vous savez qu'il y a un grand principe qui est dans notre constitution, à l'article 17 de notre constitution, qui dit que la liberté individuelle, c'est le principe au Congo. La détention, c'est une exception. Donc c'est une mesure à laquelle on doit recourir avec beaucoup de circonspection. Alors par rapport à cela, dès qu'une personne arrive au poste d'un OPJ, celui-ci a l'obligation de l'entendre immédiatement. D'abord de l'informer des motifs de son arrestation, dans la langue du choix de cette personne qui est arrêtée, dans la langue qu'elle comprend. Ensuite, on doit prendre ses dépositions sur un procès verbal et faire signer ce procès verbal à cette personne là-bas, par cette personne, après qu'elle ait lu les faits qui y sont consignés. Alors, lorsque l'officier de police judiciaire ne procède pas de cette façon, eh bien, il peut se retrouver lui-même en situation où il aurait arrêté quelqu'un de manière arbitraire.
Oui. Alors, est-ce que la personne doit exiger la présence de son avocat avant d'établir le procès verbal?
Merci beaucoup. C'est encore un des droits vraiment qui sont consacrés par notre constitution. Dans la mesure où à l'article 18 de cette constitution, il est dit que la personne qui est arrêtée, donc privée de sa liberté d'aller et de venir, doit entrer immédiatement en contact avec sa famille. L'OPJ doit mettre cette personne en situation d'entrer en contact immédiatement avec sa famille ou avec son conseil. Étant donné que, désormais, selon notre constitution, c'est un droit pour tout citoyen congolais, lorsqu'il est placé en état d'arrestation, de pouvoir choisir de se défendre soit soi-même, soit de se faire assister d'un défenseur de son choix. Et la constitution ajoute, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière, donc nous sommes en train de parler de la police, les conteneurs, et de l'instruction préjudiciaire, nous sommes au niveau des magistrats. La constitution ajoute, et c'est ce qui est important aujourd'hui, je pense, pour nos auditeurs, c'est que cette personne peut se faire assister par un conseil, même devant les services de sécurité. C'est dit comme ça clairement à l'article 19 de la constitution de la République démocratique du Congo de février 2006. Donc c'est un principe constitutionnel et les citoyens doivent le savoir. Et donc quand vous arrivez dans une situation comme celle-là, il faut savoir revendiquer vos droits.
Voilà, Maître Guilain Maléré, quels sont alors les droits d'un détenu? Une personne qui est détenue en prison, quels sont ses droits?
Oui, je dis merci beaucoup. Nous en avons déjà épinglé quelques-uns, mais le droit le plus important, qui doit être connu et par la personne qui est détenue et par la personne qui est en train d'instruire son cas, c'est que cette personne-là bénéficie de ce que la Constitution appelle la présomption d'innocence. Cette personne-là doit être traitée en fait comme si elle était innocente, tant qu'un jugement définitif n'est venu consacrer le fait que cette personne-là est coupable des faits qu'on lui reproche. Tant qu'on n'a pas vraiment par jugement, décider que cette personne est coupable, eh bien, elle est présumée innocente.
Alors, c'est dans le cas où on décide que, voilà, elle est coupable et puis elle doit aller en prison à Makala, par exemple.
Là, maintenant, on n'est plus dans la détention préventive, comme on l'a dit. On est dans la phase où l'on purge la peine. On est donc un condamné. On est un prisonnier, comme on dit. Et bon, cette personne-là aussi, comme tous les autres détenus, le droit à un traitement humain qui n'est pas dégradant, qui n'est pas cruel. Cette personne-là a le droit d'être mise dans des situations de salubrité, a le droit d'être consultée régulièrement par un médecin, donc le droit à la santé.
Le droit à cette... Et les membres des familles peuvent venir à tout moment pour
le
visites,
droit aux visites, effectivement, et même des droits comme les secrets de correspondance, parce que ce sont des droits qui sont consacrés par la Constitution. Elle peut correspondre avec les membres des familles, mais évidemment...
Donc on peut lui laisser son téléphone pour les appels.
Bon, il y a des situations, en principe, oui, mais il y a des situations, ça dépend des faits qui sont reprochés à la personne et de ce que le magistrat qui est en train de suivre son cas craint. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir des restrictions à ce droit-là, mais en principe, quand on est en privation de liberté, c'est seulement la liberté qui vous est refusée.
Mm-hmm.
C'est ça la sanction. La sanction, c'est la privation de la liberté. Ce n'est pas la privation d'autre chose.
Mais vous jouissez de tous vos droits.
En principe, si les conditions sont réunies, vous avez le droit à l'information, vous pouvez voir la télévision, vous pouvez faire venir des livres en prison. Il y en a qui se sont instruits en prison. On dit que l'ancien président Nelson Mandela, je crois, a eu un diplôme pendant son séjour en prison, un diplôme de droit ou quelque chose comme ça.
Oui.
Donc vous comprenez que le prisonnier, en fait, jouit de tous les droits reconnus aux citoyens, sauf qu'il est en situation où on le prive de sa liberté d'aller et de venir.
Voilà, nous avons en ligne des auditeurs. Il y a Sina qui nous appelle de Kindu et Fadel et à Kinshasa. Sina, bonjour.
Bonjour, monsieur Judy.
Oui, on vous écoute.
Oui, aujourd'hui, à l'occasion de la journée universelle des droits de l'homme, nous voulons juste savoir, parce que ce problème, ici, en ville, par exemple, bien sûr, on ne rencontre pas de tel cas, mais aller un peu plus loin, dans des villages, vous trouverez des cachots où on coffre des gens, plus d'un mois, sans procès, et ensuite, comme on l'a entendu dans la fiction radiophonique, on le fouette chaque jour. Alors, quelles sont les actions à étendre à l'occasion de cette journée, même à la mort ou à l'enfermement?
Voilà, Maître Guilin, qu'est-ce que vous direz à Sina?
Oui, je reconnais d'abord ce que M. Sina dit. Il y a des coins vraiment reculés de la République, parfois même enclavés, où tous les services de l'État, notamment le parquet, ne sont pas déployés. Et il s'y commet effectivement beaucoup d'abus. On a même eu des situations où on nous a appris que certains chefs coutumiers se permettaient même aussi de détenir des gens dans les milieux où ils se retrouvaient seuls. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de parquet installé.
Donc ils ont leur cachot privé.
Leur propre cachot. Ils infligent des amendes en nature aux gens, chèvres, poules, etc. Et on détient des gens ou des postes de police, par exemple. Ils détiennent des gens pendant plus de 48 heures. Donc ces choses-là existent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut dénoncer. Ce qu'il faut savoir par rapport aux justiciables, c'est que quand ils se trouvent devant un agent de la police qui abuse de ses droits, eh bien souvent les citoyens sont désarmés, ils croient que ce monsieur-là est tout puissant, au-dessus de lui il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'institution.
Il est donc important qu'il peut user des intimidations.
Surtout comme on nous dit là au village là-bas, un homme en armes est craint, je ne sais pas comment. Mais effectivement, il faut savoir que cette personne-là a une hiérarchie. Donc, et c'est à ce niveau-là qu'interviennent les organisations de la société civile, comme les ONG, etc., à travers le travail important de dénonciation que ces organisations font. Alors, lorsque vous dénoncez ces faits, vous les portez à la connaissance du public, et particulièrement à la connaissance de l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire le procureur, par exemple, de la République, généralement, on agit vite, on soustrait cette personne à ce régime-là. Mais vous comprenez que lorsque on ne dit pas, on ne dénonce pas, souvent, celui qui commet ces abus-là se comporte en petit roitelet dans son village là-bas et continue à faire subir comme ça des tortures aux personnes qui sont sous arrestation.
Oui. Fadel est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Fadel.
Oui, merci. Je suis de Raya Monsieur, section droit de l'homme.
Oui.
Je voulais juste compléter mon confrère, Maître
Guilhem Arévé. Oui.
Juste dire que tant qu'il n'y a pas tellement la sensibilisation, cette culture des droits de l'homme sera toujours bafouée à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que quand nous observons bien, l'arrestation vient du mot arrêter. Arrêter, ce n'est plus mettre quelqu'un en mouvement, c'est-à-dire vous le stopper de tout ce qu'il peut faire. Là, il est déjà arrêté. Et l'acte de c'est l'arrestation. Et la détention, c'est prendre quelqu'un, le mettre quelque part, soit dans un amico, ou soit dans un cachot, ou soit dans la prison. Mais ma première préoccupation, je voulais que Maître puisse nous éclairer sur la durée de 48 heures. Comparativement à la situation actuelle, dans les cachots, les amicaux et les prisons, est-ce que les autres, les magistrats, voire même les procureurs, est-ce qu'ils acceptent qu'ils sont en erreur comparativement à la situation actuelle sur le terrain? Et ma deuxième préoccupation est que Quand vous observez bien la situation des droits de l'homme, cette culture a été mal comprise des années et des années. Si quelqu'un se présente comme activiste des droits de l'homme, il devient ennemi des autorités. C'est par là que le royaume Sire, par la section des droits de l'homme, lance un principe déclaratif en disant que les droits de l'homme, c'est l'ensemble des besoins nobles, des valeurs nobles, des libertés nobles, des dignités et mérites nobles d'un être humain.
Voilà, merci beaucoup Fadel pour votre intervention. Vous êtes à Kinshasa, Maître Guylaine Maléré, vous avez la parole.
Oui, je remercie beaucoup Monsieur Fadel de OMC, je crois, section droits de l'homme. Il a dit des choses très vraies, notamment la sensibilisation. Les droits de l'homme, effectivement, c'est une culture qui doit être intériorisée. Mm-hmm. Nous avons vu sous d'autres cieux, lorsque des policiers sont en train de procéder à l'arrestation d'un citoyen, tout en l'arrêtant, ils lui récitent quelques dispositions légales en sa faveur. Vous avez le droit de garder silence, vous avez le droit de vous faire assister par un conseil, tout ce que vous allez déclarer à partir de maintenant peut être retenu contre vous. Mm-hmm. Vous voyez, ça relève déjà de la culture des droits de l'homme. Donc pendant que vous êtes en train d'arrêter, vous qui arrêtez, on vous demande d'informer déjà cette personne-là sur ses droits. Cette même situation est consacrée par notre Constitution qui dit que la personne placée en état d'arrestation doit être immédiatement informée non seulement des griefs portés à sa charge, mais aussi des droits qu'elle a. Mais vous constaterez que dans la pratique, cela ne se fait pas. Et donc, c'est à ce niveau-là que j'ai tout à l'heure salué le travail des activistes des droits de l'homme, ceux de la société civile, qui sont censés effectivement amener et les institutions et les citoyens à aller vers la culture des droits de l'homme. Alors, par rapport à la question qui a été posée, celle de savoir si les 48 heures sont respectées, est-ce que les magistrats et autres policiers et OPJ reconnaissent leur erreur.
Oui.
Je pense que nous avons tous suivi les déclarations du gouvernement dans le secteur de la justice. Il y a une volonté manifestée de pouvoir réformer, assainir le secteur de la justice, mais il faut aussi reconnaître que malgré leur bonne volonté, les magistrats du parquet parfois sont confrontés au problème des moyens. Prenez une commune comme Kisenso par exemple, il y a aussi des cachots là-bas, et ces cachots sont censés être visités régulièrement par des magistrats du parquet pour contrôler la régularité de la détention des détenus qui y sont placés. Mais c'est une commune parfois inaccessible à cause des routes qui manquent enclavées, et le parquet n'a pas de véhicule qui doit aider les magistrats à faire cette ronde là-bas. Et donc cette ronde est faite plus facilement dans les communes où la circulation est facile, et dans des coins éloignés, enclavés comme Kisenso par exemple, selon ce qu'ils nous ont dit lors d'une visite sur terrain dans les cadres de l'ONG avec laquelle je collabore, RCN Justice et Démocratie, nous ont dit qu'ils peuvent faire comme ça un mois sans recevoir de visite des magistrats. Vous comprenez qu'en ce moment-là, l'OPJ se retrouve de facto investi de pouvoir de fait, tel que s'il veut faire des abus, il n'y a personne pour le contrôler.
Pour le contrôler,
Donc, il faut examiner le problème de tous les côtés. Et donc, il y a une responsabilité de l'État par rapport aux moyens qu'il met à la disposition des institutions judiciaires. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des brebis galeuses dans nos institutions judiciaires et policières qui, malheureusement, tout en ayant la loi à portée de la main, ne l'appliquent pas. Et c'est pour ça, justement, que les droits de l'homme, je suis d'accord avec M. Fadel, les droits de l'homme, c'est un problème qui implique tous, la presse, les activistes des droits de l'homme, tous les acteurs de la société doivent s'impliquer pour qu'on aille vers une véritable société état de droit.
Jo est en ligne depuis Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voulais profiter pour demander à votre invité, parce que dans le cas actuel de la journée d'aujourd'hui, nous avons un service comme l'ANR qui travaille et qui arrête n'importe comment, disant que c'est un service qui dépend de la présidence de la République, comme on en a connu du temps de Mobutu, du temps de Kabila le père. Le président Kabila avait dit dans son discours d'investiture il y a 3 ans qu'il va bien voir le problème des droits de l'homme. Mais la ANR, qui dépend de lui, arrête. Vous pouvez aller dans les juges de l'ANR à gommer vers la primature.
Oui, monsieur Joe, ça, peut-être c'est vos
déclarations qui vous engagent.
Oui.
Quel est votre point de vue? Eh bien, est-ce que le droit de l'homme est-il respecté? C'était ça ma question, mais je devais d'abord expliquer.
Oui, merci beaucoup, monsieur Joe, pour votre intervention, maître Guizan.
Ok, j'ai tout à l'heure lu une disposition de la Constitution qui dit que toute personne qui est arrêtée doit se faire assister Et la Constitution a ajouté expressément, elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Quand vous voyez les constituants mettre une disposition comme celle-là dans la Constitution,
oui,
c'est qu'ils visaient à résoudre un problème.
Mm-hmm.
Et donc, c'est une avancée significative. Je reconnais que avant la Constitution de 2006, la procédure devant les services de sécurité en général n'était pas vraiment conforme, bien maîtrisée. C'est pour ça que le législateur en 2006 a mis cette disposition dedans.
Mm-hmm.
Donc, c'est déjà une avancée dans la mesure où, lorsque vous êtes devant les services de sécurité, en air compris, vous avez le droit constitutionnel de vous faire assister. Bon, maintenant, moi personnellement, je n'ai jamais eu affaire avec ce service-là,
oui,
mais je suppose que ce service-là est astreint aussi au respect de la Constitution. Et donc, lorsque vous vous êtes informé de vos droits, vous faites venir un défenseur, et c'est ce défenseur là-bas qui va être comme la courroie entre vous et le monde libre.
Oui.
C'est-à-dire, lorsque le défenseur constate que son client n'est pas traité conformément à la loi, conformément à la Constitution, il a le droit d'aller les dénoncer. Et j'ai constaté souvent que lorsqu'on dénonce un cas qui était traité en marge de la loi, dans l'ombre, généralement la tendance de ceux qui travaillaient dans ce sens-là,
mm-hmm,
c'est de prendre la personne et de la remettre dans les circuits normaux. On prend la personne, on la fait quitter les services de sécurité, on l'envoie vers le parquet s'il s'agit d'infractions de droit commun. Il en va autrement lorsqu'il s'agit d'infractions qui portent atteinte à la sécurité de l'État.
Mm-hmm.
Vous savez que ça, c'est une matière qui est gérée de manière un peu particulière. Mais pour les infractions de droit commun, généralement, lorsqu'une personne est arrêtée par un service de sécurité, un air ou un autre, et si la situation est portée à la connaissance du public, généralement, ces services ont tendance à prendre la personne, à la remettre dans le circuit judiciaire normal,
mmh,
et je pense que c'est déjà une avancée. Bon, maintenant, les textes sont là. Les textes sont là, il faut les faire appliquer,
mmh,
et c'est pour ça que je disais que c'est un travail. Tout ne peut pas changer en un jour. C'est une culture, c'est une mentalité qu'il faut faire évoluer, et j'ai salué avec Radio Capi le travail de la société civile par rapport à cela.
Mmh.
C'est en continuant à faire pression sur les institutions que les choses vont changer. Cette disposition n'existait pas dans la Constitution dans, mmh, le temps. Maintenant, on a mis clairement dans la Constitution.
Donc, cela veut dire qu'il y a déjà une avancée significative.
Que l'autorité n'est pas sourde. Elle, oui, a compris quand les gens dénoncent. Donc, le cri de cœur de M. David, je crois.
Hein, oui, il est plus en ligne.
Bon, c'est son cri de cœur, là, je le comprends très bien.
C'était M. Joé.
Voilà. M. Joé. Mais, ah, il, ouais, faut qu'il comprenne que dans ce domaine-là, les choses évoluent lentement.
Petit à petit.
L'état, ouais, des droits, c'est un idéal, mmh, sans cesse poursuivi.
Voilà, David est en ligne depuis Béni et bravo. Est également en ligne depuis Guémena. David, on commence avec David, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, quelle est votre préoccupation, David?
Ma préoccupation, ça regarde pour l'arrestation arbitraire.
Oui.
J'avais un frère qui a été arrêté ici à Béni. Je voulais aller demander la liberté provisoire.
Oui.
Pour moi, j'ai risqué même d'être arrêté par ce magistrat. Il m'avait injurié. Moi, je suis rebelle, tout ça. Bon, je me suis demandé si l'arrestation, si par exemple, le demande de mise à liberté provisoire, c'est un droit dans notre constitution. Est-ce que pour aller demander le mise à liberté provisoire, ça devient un problème d'être menacé, injurié par un magistrat? Ça, c'est un droit.
Merci beaucoup, David, depuis Béni, pour votre intervention. Bravo, est en ligne depuis Guémena. Bonjour.
Bonjour, c'est Bravo Bélec de Bouguimena.
Oui, bravo, on vous écoute.
Ouais, je voudrais poser la question à notre invité qui est sur le plateau,
oui,
qui prévoit les droits de l'homme pour les gens qui sont reculés. On parle là des villageois qui sont trop loin, hors des centres. Ce sont ces gens-là qui sont souvent malmenés. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de la nature, vous êtes malmenés jusqu'à ce que vous payez des condiments. Même si vous n'avez pas d'argent, vous devenez coupable à la loi. Par contre, si la raison vous était accordée. Et la deuxième question, c'est par rapport au principe du monde à mon côté, à quoi t'as la bolo côté. Vous savez, il y a des enfants de ces gens-là qui commettent pas mal, qui violent pas mal les lois, mais ils ne sont pas poursuivis par la loi, ils n'arrivent même pas à la prison. Qui prévoit les droits de l'homme?
Merci beaucoup, bravo, depuis Guémena, Maître Guilla.
Oui, très bien, Jody. Je voudrais faire une petite remarque là, qui apparemment n'a pas de rapport direct avec ce qu'on dit, mais en réalité, c'est fondamental. Hein.
Oui.
C'est le discours de Dien, discours du chef de l'État, le discours à la nation qu'il a prononcé au niveau du Parlement. Il a dit que parmi les priorités maintenant, c'est l'assainissement du climat des affaires. Et il a dit, je crois, si j'ai bien suivi, que ceci passe par la sécurisation des investisseurs au niveau judiciaire et juridique. Effectivement, lorsque dans un pays, le secteur de la justice ne marche pas, les investisseurs hésitent à venir. Mmh. Et donc, toutes ces choses ici, lorsque nos amis auditeurs Bravo, Bravo de Guémena, David de Beni, etc., se plaignent, effectivement, en fait, ils aident l'État, ils aident le gouvernement à voir ce qui ne va pas, à arranger, parce que les étrangers qui voient ça, qui voient que dans un pays, par exemple, un magistrat peut se permettre, si c'est
d'injurier,
vrai, d'injurier quelqu'un qui vient demander la liberté provisoire
de son frère,
liberté provisoire qui est organisée par le code de procédure pénale, c'est-à-dire si les conditions sont réunies, on vous dit, bon, très bien, payez par exemple une caution, et on libère la personne sous condition de vous présenter, etc.
Donc alors, le magistrat n'a pas les droits d'injurier.
Alors, à ce moment-là, le magistrat paraît comme étant lui-même au-dessus de la loi. Ce n'est pas rassurant, et pour les citoyens, et pour les étrangers qui veulent choisir le Congo comme seconde patrie. En réalité, un tel magistrat devrait être accusé à sa hiérarchie. Parce que maintenant, on a compris que les magistrats ne sont pas invulnérables. Il y a des sanctions qui peuvent être prises contre eux. Et ça, il faut que la population le sache. Mmh. Quand vous êtes devant un magistrat du niveau, par exemple, grande instance, eh bien, sachez que lorsque vous allez au niveau de la cour d'appel du parquet général, eh bien, il sera appelé, entendu sur procès verbal comme tout justiciable. Mmh. Et si les faits sont avérés, il peut avoir des sanctions disciplinaires, suspension, etc. Parce qu'il y a un organe qui se charge maintenant de ces choses dans la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature, organe qui est maintenant fonctionnel, mais il faut les saisir. Le problème chez nous ici, c'est que les gens ne savent pas où aller pour
accuser. Par exemple, David, s'il doit aller accuser le magistrat, est-ce qu'il a des preuves, hein, par exemple, pour le cas des injures?
Bon, là, les témoignages, c'est un mode de preuve. Hein. Ouais. Si là, ces injures ont été proférées devant une personne adulte, une ou deux personnes adultes, eh bien, il peut aller accuser. Parce qu'à ce moment-là, le procureur dit, bon, très bien, et qu'est-ce que vous avez fait de cette demande de liberté provisoire? Comment vous l'avez traité? Vous sentez qu'il n'a même pas traité la demande de liberté provisoire, il a tout simplement chassé la personne qui est venue faire cette demande. Ce comportement est inacceptable et il est bon qu'il soit dénoncé. Puisqu'on a mis des organes pour cela, il faut les utiliser. Donc il faut accuser de tels magistrats, dénoncer.
Où aller accuser un magistrat?
Un magistrat s'accuse chez son supérieur hiérarchique. S'il travaille au niveau du parquet des grandes instances, eh bien vous allez voir le procureur de la République qui supervise ce parquet. Si à ce niveau-là vous n'avez pas de solution, vous allez au parquet général qui lui se trouve généralement au chef-lieu des provinces. N'est-ce pas? Vous allez au chef-lieu, vous allez au parquet général, vous portez plainte contre tel magistrat, vous allez voir, il sera interpellé par sa hiérarchie. Et dès qu'il saura que vous, les justiciables, vous connaissez le chemin où il faut aller pour l'accuser, vous allez voir, le magistrat va changer de comportement.
Voilà, bravo dit, moi là, on dit, à côté à bolo côté, maître Guidin.
Ça, ce sont des principes vraiment contraires à un état de droit, que l'on déplore malheureusement dans certains coins. Et c'est ça, justement, la lutte contre l'impunité, la tolérance zéro. Tout le monde souhaite que ça ne reste pas des simples slogans. Et quand on dit tolérance zéro, ça veut dire « et moi, Namokonzi, et Mobola, tous même traitement ». C'est un idéal vers lequel nous souhaitons tous qu'on aille, mais effectivement, dans la vie courante, par moments, on a l'impression que quand on a un peu de moyens, on s'en sort plus facilement, mais il ne faut pas que les choses en restent là, et donc, par rapport à cela, nous devons tous lutter pour que l'impunité cesse par rapport à tous les citoyens qui doivent être traités de manière égale, parce que la Constitution le dit aussi, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Nous avons donc des beaux textes, mais il reste à les appliquer, et c'est ce qu'il faut souhaiter en cette journée du 61e anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, maître Guidin Malere Moudekereza, consultant à l'ONG RCN Justice et Démocratie. Je vous remercie et à la prochaine.
Merci Jody Kachama pour votre professionnalisme.